France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une histoire belge. Celle d'une enfant qui était fille de prince, mais qui ne le savait pas. C'était un secret. Car le prince avait par ailleurs une épouse officielle, Paola, des enfants et un frère qui était roi. Quel imbroglio. Bien des années plus tard, quand le secret est révélé, la petite fille, devenue entre-temps plasticienne, voit sa vie chamboulée. L'artiste, la fille secrète, la princesse inconnue, c'est Delphine Boël. Son père, c'est Albert II de Belgique, devenu roi après la mort de son frère Baudouin. Mais en 2013, fini le conte de fées. Delphine Boël entame une action en justice pour que le roi, qui nie farouchement cette paternité, la reconnaisse comme son enfant. Une affaire qui occupera les journaux et chagrinera les Belges qui ne reconnaîtront plus dans cette obstination butée le caractère joyeux et bon vivant de leur roi Albert II. Notre invité aujourd'hui, Pierre Kroll, dessinateur de presse, auteur du dessin quotidien dans le grand journal belge Le Soir. Il a suivi de près cette affaire et l'a commenté en dessin. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Odile Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Ronxin.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
C'est une toute petite phrase dans une biographie de Paola, l'épouse du roi Albert II, parue en 1999. Une phrase qui dit « Paola refusa de se résigner passivement à l'idée que ses enfants aient une demi-sœur ». Une phrase qui déclenche un séisme dans la presse belge, car l'identité de la fille légitime d'Albert est vite révélée. Alors, la vie de l'intéressée Delphine Boël, 31 ans, change radicalement.
Ma vie a été complètement bouleversée. Avant, je vivais dans le secret, je vivais comme une personne tout à fait normale. Et après, ça a été l'espèce de boomerang de presse. Et je suis devenue une personne publique et médiatisée.
C'est elle qui témoigne ici, sur France 3, en 2008. Je n'osais presque plus sortir. Aller faire mes courses devenait un calvaire. J'étais poursuivi, harcelé, dit-elle encore. En quelques jours, en effet, tous les Belges apprennent ce qui était jusqu'alors un secret de polichinelle pour l'entourage royal et nombre de journalistes. Le roi a une fille morganatique. Très vite, les médias du pays font le parallèle avec une situation que la France a connue quelques années plus tôt. La Belgique a Delphine, comme la France a Mazarine, titre les journaux. Même si la révélation de l'existence de la fille de François Mitterrand, avec photos et récits publiés dans l'hebdomadaire Paris Match, avait été orchestrée par le président de la République lui-même, la déflagration n'en a pas été moins rude pour la jeune fille. Dans une grande interview au quotidien belge Le Soir, en 2020, Mazarine revient sur ce moment. Et ses mots résonnent puissamment avec ceux de Delphine Boël.
Ça a été extrêmement violent. Ça m'a mise au pilori. J'ai été pourchassée, traquée par des paparazzi, après cette première photo. Ce qui m'a mise dans un espace people. Comme si j'étais une people. Moi qui étais tout sauf ça. Et qui avait grandi dans une certaine forme d'austérité.
Mais reprenons le théâtre belge et royal par le commencement. Les personnages principaux. Un prince, Albert de Saxe-Cobourg, couronné roi en 1993, marié, père de 3 enfants. Une baronne, Sibylle de Sélis-Longchamp, séparée de son mari, Jacques Boël, un industriel dont elle divorcera plus tard. Albert et elle vivent une longue histoire d'amour entre 1966 et 1984. Jacques Boël, donc, industriel, époux de Sibylle de Sélis-Longchamp, dont il est séparé. Il reconnaît Delphine, qui porte son nom. Une enfant, Delphine, née en 1968 des amours d'Albert et Sibylle, reconnue donc par Jacques Boël. Une princesse, Paola Ruffo di Calabria, devenue reine de Belgique quand son mari, le prince Albert, succède à Baudouin. Plus quelques personnages secondaires, les 3 enfants d'Albert et Paola, Philippe, aujourd'hui roi de Belgique, Astrid et Laurent, nous aurons l'occasion de reparler de ce dernier. Et puis dans le rôle des spectateurs, les Belges, Wallons et Flamands. Les premiers sont meilleurs publics vis-à-vis de la famille royale. Mais dans l'ensemble, ils assistent au spectacle qui va suivre, avec des sentiments qui oscillent entre la bienveillance, l'étonnement et un rien de consternation. Voilà pour le casting, l'action peut commencer. Elle débute en Grèce en 1966. Le prince Albert est à Athènes pour s'occuper de son bateau, amarré dans le port du Pirée. Les relations avec son épouse Paola sont orageuses. Alors pour se consoler de son mariage raté, Sibylle de Sélis-Longchamp, dont chacun vante la grande beauté, est auprès de son père, ambassadeur de Belgique en Grèce. La jeune femme est chargée de s'occuper du prince pendant son séjour. Si la perspective de passer une semaine en compagnie d'une altesse royale ne l'enchante guère, elle change vite d'avis, relate sa fille dans Couper le cordon, l'autobiographie qu'elle a publiée en 2008.
L'homme allait certainement se révéler ennuyeux et suffisant, mais pas du tout. C'est en fait la rencontre de deux petits animaux blessés par des problèmes conjugaux. Cela les rapprochait. Très vite, elle a constaté que ce prince pouvait être charmant. Ils ont eu des conversations intéressantes et petit à petit est née une amitié qui s'est transformée en amour passionnel.
Ils ne se marièrent pas, mais eurent une fille qui grandit à Uccle, près de Bruxelles. Albert vient quasiment quotidiennement au domicile de Sibylle et de Delphine. « Je ne savais pas qu'Albert était le prince », relate cette dernière. « C'était le grand ami de ma mère, je l'appelais Papillon. » À ce moment-là, Delphine ignore encore qu'elle est la fille de Papillon. Malgré les mauvaises relations qu'elle entretient avec Jacques Boël, son père officiel, elle doit lui rendre régulièrement visite. Elle mangeait le plus souvent à l'office avec le personnel. Elle n'était pas invitée à la table familiale. Il n'y a jamais eu de relation père-fille. Non, mais plutôt l'entretien d'une façade pour épargner un scandale public. Détail Marc Heutendal, l'un des avocats Delphine. Sibylle et Albert sont profondément amoureux. Au point qu'à deux reprises, Albert envisage de divorcer pour convoler avec Sibylle. En 1969, d'abord. Et là, l'affaire n'est pas simple, car Albert est le prince héritier, vu que Baudouin et son épouse Fabiola n'ont pas d'enfants. Donc, si quelque chose arrivait à Baudouin, Albert serait appelé à régner, mais divorcé, il en serait empêché. C'est donc son fils aîné, Philippe, qui monterait sur le trône. Or, il n'a que 10 ans. Le très catholique Baudouin convainc alors son frère de retarder son divorce de quelques années, espérant peut-être aussi que les choses s'arrangeront avec Paola. Mais ce n'est pas le cas. En 1976, Sibylle de Sélis-Longchamp commence à mal vivre la situation. Sa fille, qui ignore encore sa filiation, n'est pas heureuse et ça lui cause des soucis. Alors elle envisage de s'installer à Londres. Albert, qui passe tous ses après-midi auprès d'elle, est prêt à l'accompagner. Le projet de divorce est relancé. Oui, sauf que nous sommes là dans une affaire d'État. Les plus hautes autorités du royaume sont consultées. Le roi Baudouin avait fini par accepter que son frère divorce, relatait Sibylle en 2013, dans le soir. Il avait désigné 3 personnes pour préparer la séparation et il en avait parlé au Premier ministre. Et le gouvernement avait donné son accord. Les questions de succession, le partage des biens, les visites des enfants, tout est prévu. Mais 2 semaines avant l'annonce officielle, Sibylle renonce. Sa fille revient sur ce moment dans son autobiographie.
Cet accord imposait des conditions très dures au prince et à la personne inconnue, ainsi que ma mère y était désignée. Pour elle, ces conditions étaient inacceptables. Ce qui l'a surtout choquée, c'est qu'elle n'avait jamais le droit de voir les enfants d'Albert, situation qui, pour le prince, aurait été source d'équivoques et de malentendus. Ma mère ne voulait pas déstabiliser la monarchie, et elle ne voulait pas non plus briser un ménage avec 3 jeunes enfants. Elle ne voulait pas porter sur ses épaules le poids de telles responsabilités.
Sibylle part vivre à Londres avec sa fille. Albert traverse régulièrement la Manche pour voir sa deuxième famille. Mais en 1984, il se réconcilie avec Paola, son épouse, grâce aux beaux offices d'un mouvement charismatique. Il décide alors de tirer un trait sur son passé, coupe les ponts avec Sibylle, mais appelle encore régulièrement Delphine, lui envoie des cadeaux. Et c'est peu ou prou à cette époque que sa mère lui révèle que Papillon est son père. J'étais ravie d'avoir trouvé mon père. C'est quelqu'un qui est marrant, sympathique, je m'entendais bien avec lui, écrit-elle au sujet d'Albert. Et pendant 20 ans, maintenant c'est long, elle garde le secret. À Londres, Delphine entreprend des études artistiques. Elle crée des sculptures en papier mâché, très colorées, qui évoquent Niki de Saint-Phalle, ou elle réalise des collages. Et elle commence à avoir une certaine notoriété quand le « secret » entre guillemets est révélé en 99 et qui, bien sûr, fait immédiatement les gros titres de la presse. Alors que Delphine voit sa vie bouleversée, les Belges semblent accueillir la nouvelle sans drame, avec une bienveillance amusée, notent même les deux auteurs de l'ouvrage intitulé « Les rois ne meurent jamais ». Quelques semaines plus tard, à l'occasion du traditionnel message de Noël, Albert fait cette déclaration sur le mode « Il n'y a rien à voir circuler ».
La reine et moi, nous nous sommes remémorés des périodes très heureuses, mais aussi la crise que notre couple a traversée il y a plus de 30 ans. Nous ne souhaitons pas nous appesantir sur ce sujet qui appartient à notre vie privée.
Beaucoup voient dans ce message sibyllin qui n'a pas dû plaire à Sibylle une reconnaissance implicite de l'existence de cette fille légitime, un aveu à demi-mot, mais qui vaut à Albert un regain de sympathie. Celui qui est alors roi depuis 6 ans, depuis la mort subite de son frère, est déjà apprécié pour sa bonne humeur, sa simplicité, son côté bon vivant, qui tranche avec l'austérité de Baudouin, son prédécesseur, qualifié parfois de roi triste. Albert, lui, sera un roi joyeux. Mais de reconnaissance officielle de Delphine, point. Sur le sujet, le monarque se montre d'une raideur et d'une froideur qui vont nuire à son image pendant les 7 années que durera ce feuilleton judiciaire. Loin de reconnaître cette paternité, il s'obstine à la nier, contre l'évidence. En 2001, il coupe tout contact. Lors d'un dernier appel de Delphine, qui lui demande de l'aide face au harcèlement de la presse à sensation, dont elle est l'objet, il lui tient ses propos. « Tu ne dois plus jamais m'appeler. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Et d'ailleurs, tu n'es pas ma fille. » On imagine la blessure que peuvent causer ces mots et que peuvent causer ces mots. L'artiste Delphine la soigne à sa façon, cette blessure, dans des œuvres très colorées. Elle s'en explique.
« Pour exprimer ce qui m'oppresse, j'utilise des couleurs vives et joyeuses, l'humour et la moquerie. Mais celle-ci n'est pas de l'espièglerie pure et simple. Elle confine au sarcasme qui est toujours, en quelque sorte, un moyen de défense contre un monde menaçant. Ainsi, dans les années de crise 2001-2002, ayant été rejetée par mon père, j'ai exprimé ma rage et ma douleur dans des œuvres empreintes d'un humour sardonique et acerbe, comme par exemple ce « Royal Sacred Four-Legged Monster », monstre royal sacré à 4 pattes, un banc orné de têtes de vaches et de cochons.
En 2003, elle revient en Belgique, enceinte de son premier enfant. « Je voulais que ma fille entende ma langue maternelle, qu'elle voie les paysages et qu'elle sente les odeurs de ma jeunesse », dit-elle. Mais pour la fille du roi, dont celui-ci persiste à nier qu'elle est sa fille, la vie n'est pas simple. La presse à sensation la suit, on l'a dit. Certaines galeries la veulent pour monter une expo autour d'elle, mais sans s'intéresser à son travail. Et d'autres se détournent d'elle. En 2005, sa mère, Sibylle de Célis-Longchamp, sort de 33 ans de silence après que Delphine s'est vue désinvitée d'un dîner auquel le prince Philippe, héritier du trône, était attendu. Les organisateurs de la soirée estimaient en effet que sa présence à proximité de l'héritier du trône était problématique. Alors qu'elle était conviée en tant qu'autrice d'une sculpture exposée dans le lieu où se tenait la réception. La baronne de Célis-Longchamp confie alors son amertume à la RTBF.
On lui a dit qu'elle pouvait rester à la maison parce que le prince Philippe était là. Et là, se trouve que ça touche à la liberté. Humainement parlant, c'est d'abord une terrible gifle en pleine figure. Elle fait de mal à personne, elle n'a pas demandé de naître. Et là, ça touche profondément les fibres d'une mère. Je me sens très triste. Très triste et si je parle aujourd'hui, c'est pour dire que j'espère que ça va cesser.
Bref, Delphine, cette grande jeune femme qui porte des bottes brillantes à plateforme vertigineuse ornée de cœurs, cette artiste qui s'habille de façon colorée, voyante, disent les mauvaises langues, et qui commence à parler à la presse, à la télé... Cette femme est une épine dans le pied du royaume. Il faut faire quelque chose. Les conseillers du roi tentent alors de convaincre Sa Majesté de mettre un terme à cette histoire, de trouver un arrangement à l'amiable avant d'en arriver au procès. Sibylle de Célis-Longchamp s'active de son côté pour permettre une reconnaissance. Elle contacte le cardinal Danels, qui est alors la plus haute autorité de l'Église catholique en Belgique. Elle demande audience à la reine Fabiola, veuve de Baudouin. peine perdue. Des tentatives de conciliation sont ensuite amorcées entre les avocats Delphine et ceux d'Albert. Il est question que celui-ci rédige une lettre scellée dans laquelle il reconnaîtrait qu'elle est sa fille, mais qui ne serait ouverte qu'après le décès du roi. Refus Delphine. Quoi ? Une lettre scellée qui n'offrait pas de solution immédiate, mais une solution différée ? Non, c'était trop flou et sans garantie réelle pour l'avenir. Sans que soient résolus les problèmes qu'elle rencontrait alors dans sa vie, justifie son avocat, Murkeuil Tendal. Alors, tragédie côté jardin ? Mélodrame ? Comédie ? Chacun en jugera. La suite de la pièce se déroulera alors côté cour. Comprendre, cour de justice.
N'existe pas un son contraire qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Delphine Boël ou comment je suis devenue princesse de Belgique.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
En 2013, une bataille judiciaire de 7 ans commence, où père et fille, et surtout leurs avocats, vont utiliser toutes les ressources du droit pour faire valoir leur point de vue. Premier acte, au mois de juin. Delphine Boël introduit une action en justice devant le tribunal de première instance de Bruxelles qui vise le prince Philippe, sa sœur Astrid et Albert II. Pourquoi Philippe et Astrid ? Eh bien parce que le roi est réputé pénalement irresponsable au terme de la Constitution et il pourrait s'opposer à un prélèvement d'ADN. Certes, mais pas ses enfants. Immédiatement, l'affaire fait grand bruit. Avocats, constitutionnalistes et commentateurs de tout poil occupent les colonnes et l'antenne de la presse belge. Mais en juillet, premier rebondissement, Albert II, qu'on dit fatigué, cède le trône à son fils Philippe. Aussitôt, Delphine Boël change son angle d'attaque. Voici le récit qu'en fait alors les RTBF.
Depuis des années, elle dit être la fille d'Albert II. Il y a quelques semaines, elle introduisait même une action au civil contre lui. Problème, la personne d'Albert II était alors inviolable. Seulement voilà, depuis le 21 juillet, le roi n'est plus roi et cela change tout à la procédure. Ce n'est donc plus le roi qui est visé, mais bien l'homme. Les avocats de Delphine Boël vont dès lors relancer une nouvelle citation en deux temps. D'abord, il s'agira de contester la paternité de Jacques Boël, autrement dit, prouver qu'il ne s'est pas comporté comme un père. Si cela fonctionne, ils pourront alors débuter l'autre partie de la procédure, c'est-à-dire la reconnaissance de paternité à l'égard d'Albert II.
Après cela, les choses évoluent au rythme de la justice, qui est un temps long. Il faut donc attendre plusieurs mois pour qu'il se passe quelque chose. Plusieurs mois pendant lesquels les spéculations vont bon train. Laps de temps qui permet également aux avocats de peaufiner leur dossier et d'aiguiser leurs arguments. Et voilà qu'une initiative de Jacques Boël, le père de Delphine, selon la loi, rallume les projecteurs sur l'affaire. Car il fait de son propre chef un test ADN dont les résultats sont sans appel. Nous sommes alors en septembre 2014.
Il n'y a plus de doute possible, Jacques Boël n'est pas le père biologique de Delphine. Le code civil précise qu'on ne peut pas avoir deux pères. C'est pourquoi elle a introduit deux actions en justice en septembre 2013. D'abord, elle conteste la paternité de Jacques Boël. Et puis, elle a introduit par la même occasion une requête en recherche de paternité à l'encontre d'Albert II. L'avocate de Jacques Boël nous a confirmé ici qu'il ne contestera pas le désaveu de paternité. C'est donc ici une étape très importante pour la suite du dossier. Delphine Boël pourra demander ici à Albert II un test ADN. Ce test, Albert II pourra le refuser. Cela n'empêchera pas le juge de prendre une décision. Delphine Boël aurait aussi en sa possession des documents, des lettres, des photos de son enfance qui seraient des preuves matérielles de moments passés avec Albert II. Alors il n'y aura pas de décision mardi lors de l'audience au tribunal de première instance de Bruxelles, mais c'est clair que ce dossier prend un coup d'accélérateur. D'ici quelques semaines, ce sera peut-être la fin d'une longue saga judiciaire qui aura fait couler beaucoup d'encre.
Alors, fin de l'histoire ? Oh que non, nous en sommes encore loin. Mais avant de savoir si Albert est oui ou non le père, il faut déterminer que Jacques Boël ne l'est pas. Car un enfant ne peut, juridiquement et biologiquement, avoir de père, dès lors qu'il a par ailleurs une mère. Car l'ADN ne suffit pas à la justice. Non. Celle-ci se penche sur le sujet en 2015 avec une première sous-question. Suivez bien. Qui concerne la notion juridique de possession d'État, à savoir la paternité socio-affective. En clair, elle vise le fait que Jacques Boël se serait toujours comporté comme un père et il se trouve que la possession d'État est une cause d'irrecevabilité de toute procédure en contestation de paternité. Bien. Toujours concernant Jacques Boël, la seconde sous-question porte sur le délai de prescription. L'enfant doit introduire la procédure judiciaire au plus tard le jour où il a atteint l'âge de 22 ans ou dans l'année de la découverte du fait que son père en réalité ne l'est pas. J'espère que vous suivez toujours. Or, selon cette règle, Delphine Boël serait hors délai. C'est un peu une usine à gaz tout ça. Retenez simplement que c'est le camp du roi qui remporte cette première manche. Jacques Boël est débouté de sa demande d'être déchu de son statut de père légal. C'est la fameuse possession d'État reconnue par la Cour. Et la prescription s'applique. Delphine s'est pourvue trop tardivement en justice. Mais coup de théâtre, sollicite la Cour constitutionnelle tranche en faveur de Delphine. Oui, elle estime que ni la possession d'État ni la prescription ne peuvent empêcher un enfant de contester une paternité au nom du droit supérieur de l'enfant à connaître sa filiation. Retour à la case départ, donc. Retour au tribunal de première instance. Nous sommes alors début 2017. Les avocats de Delphine plaident pour le désaveu de paternité de Jacques Boël, ceux du roi s'y opposent. Et ces derniers semblent être très convaincants. Le 28 mars, le jugement tombe. La Cour ne désavoue pas la paternité de Jacques Boël, qui reste le père légal. En conséquence, Delphine n'est pas la fille d'Albert II. C'est une roturière. Dès lors, le tribunal n'examine pas la question d'imposer un test ADN au roi, puisqu'un enfant ne peut pas avoir deux pères. Réaction de Mark Huytendahl, l'avocat de Delphine.
Les rapports entre Delphine Boël et Jacques Boël ont toujours été marqués plus par de l'indifférence, voire de la souffrance dans son chef à elle. Et donc, rien que sur ce point-là, la décision est contestable. Mais plus fondamentalement, vous avez une situation de droit qui est très claire, une situation de fait qui ne l'est pas moins. Jacques Boël dit à Delphine Boël « Tu n'es pas ma fille ». Delphine Boël dit à Jacques Boël « Tu n'es pas mon père ». Scientifiquement, c'est prouvé et personne ne conteste cette preuve scientifique. Et alors, pour des raisons qui restent absurdes et qui sont en contradiction avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, en tout cas avec son son esprit, ont contraint au maintien d'un lien de paternité qui, de fait, n'existe pas.
Cette bataille semble perdue pour Delphine, mais le corps royal aurait bien tort de se réjouir. Car Delphine et ses avocats vont en appel. Et en juin 2018, la validité du test ADN subi par Jacques Boël est reconnue par la Cour d'appel de Bruxelles. Il n'est donc plus le père de Delphine. Reste à prouver juridiquement qu'Albert l'est, lui. À partir de cette date, Delphine et ses avocats gagnent une bataille après l'autre. En octobre 2018, la Cour d'appel ordonne à Albert de procéder à un test ADN dans les 3 mois. Mais celui-ci tente d'y échapper. Ses avocats se pourvoient en cassation. Oui, mais trop tard, les dés sont jetés. En mai 2019, sans attendre l'arrêt de la Cour de cassation, le procureur d'appel impose au roi de pratiquer ce test ADN dans les plus brefs délais, sous peine d'une astreinte de 5000 euros par jour de retard. Contraint, Albert rend les armes par la voix de son avocat, Alain Berenboum, qui fait savoir qu'il accepte. Et enfin, le 27 janvier 2020, les avocats du roi publient un communiqué dont voici un extrait.
Sa Majesté le roi Albert II a pris connaissance des résultats du prélèvement ADN auquel il s'est prêté à la demande de la Cour d'appel de Bruxelles. Les conclusions scientifiques indiquent qu'il est le père biologique de Madame Delphine Boël. Même si la procédure adoptée lui paraît contestable, le roi Albert a décidé de mettre un terme dans l'honneur et la dignité à cette procédure pénible. Le roi Albert tient à faire observer que, depuis la naissance de Madame Delphine Boël, il n'a été mêlé à aucune décision familiale, sociale ou éducative quelconque relative à Madame Delphine Boël et qu'il a toujours respecté le lien qui existait entre Madame Delphine Boël et son père légal.
L'expression « c'est dans mon ADN » trouve ici toute sa saveur. Mais ce texte, contraint et forcé, dénué de toute chaleur, glacial même, arrive bien tard. Trop tard, estiment les commentateurs, qui considèrent que ce persistant déni, que l'utilisation de toutes les ficelles du droit pour retarder cette inévitable reconnaissance, n'est pas à l'honneur d'un roi. C'est il y a 20 ans, 10 ans, 5 ans qu'il se serait honoré en reconnaissant cette paternité qui sautait aux yeux. Que d'occasion manque, écrit le journal Le Soir. Quant aux Belges, pareillement critiques à l'égard d'Albert II, deux d'entre eux témoignent dans ce radio-trottoir réalisé par Antenne 2.
Je pense qu'Albert est le dernier à le savoir. Toute la Belgique le savait depuis très longtemps. Et je trouve qu'il a perdu 30 ans. Il aurait dû le faire il y a 30 ans à peu près.
Pour une royauté reniée comme il a fait, je trouve que ce n'est pas très bien de sa part. Parce que maintenant, forcément, il est un peu gêné.
Dernier acte, presque. Une ultime décision de justice, le 1er octobre 2020, donne à Delphine le droit de s'appeler Saxe-Cobourg, du nom de cette famille dont les Windsor, en Angleterre, sont également issus. En tout cas, la justice lui accorde également le titre de princesse de Belgique. Ce que le roi n'a jamais voulu faire de son plein gré, eh bien les tribunaux l'ont fait. Quelques jours plus tard, Albert et Paola la reçoivent au château de Belvédère, leur demeure royale, pour partager un moment familial. Et maintenant, après lui en avoir longtemps voulu, et on la comprend, Delphine de Saxe-Cobourg a pardonné à son père. Elle l'a symboliquement prouvé le 21 juillet 2024, lors de la fête nationale belge. C'est alors la troisième fois qu'elle y participe, en tant que membre de la famille royale. Et elle porte ce jour-là un ensemble brodé sur le devant d'un grand papillon, clin d'œil à la façon dont elle l'appelait petite, cet homme qu'elle ne savait pas être son père. Et ornée dans le dos d'une imposante inscription « Love ». La famille d'Albert II est donc au complet. Mais elle n'en a pas terminé avec les affaires de reconnaissance en paternité. Car fin septembre 2025, le prince Laurent, enfant terrible de la fratrie, reconnaît dans un communiqué être le père d'un certain Clément Van de Kerkhoff, 25 ans, avant que ce dernier ne révèle cette vérité à la télé. Après Delphine, que la justice belge a reconnue comme la fille d'Albert II alors qu'elle avait 50 ans passés, pourquoi tant de temps pour reconnaître son enfant dans les familles royales? S'interroge Martine Dubuisson, qui suit l'actualité du palais pour Le Soir. Comment, souvent, l'historique explique bien des choses.
Notons d'abord qu'à l'exception de Baudouin et Philippe, tous les rois des Belges ont eu des enfants naturels. Léopold Ier, arrière-arrière-grand-père d'Albert, a ainsi eu deux fils avec Arcadie Claret, qu'il n'a jamais reconnu officiellement, mais a fait anoblir. Léopold II, son arrière-grand-père, a eu plusieurs enfants naturels, jamais reconnus, notamment avec Blanche de la Croix, qu'il épousera avant sa mort. Quant à Léopold III, le père d'Albert II, il est également connu pour ses maîtresses et deux enfants naturels potentiels, sans reconnaissance de paternité. Albert II serait donc le premier roi à avoir, sous la contrainte de la justice toutefois, reconnu une enfant illégitime à la demande de celle-ci.
Et il en est un qui a été plus que soulagé que la vérité se fasse jour, en plus de Delphine bien sûr, c'est le journaliste flamand Mario Danels. Parce que c'est lui qui avait déclenché le scandale en 99 dans la biographie première du genre de la reine Paola. Le tout jeune journaliste de 18 ans qu'il était alors a été le premier surpris par la déflagration qui a suivi la publication de son livre. Il ne s'attendait pas à la tornade qu'il allait susciter, ni aux injures, insultes et menaces qu'il allait recevoir. Il s'est vu accusé de rouler pour la droite, voire l'extrême droite flamande, de vouloir mettre la monarchie à terre. Alors qu'au fond, seul Paola l'intéressait. Il avait simplement cherché à percer un certain silence qu'il sentait autour de la princesse. « Mais ouf !» disait-il à Paris Match en avril 2022. « Content pour Delphine. Et pour lui. »
Si l'action courageuse de Delphine n'avait pas porté ses fruits, ça aurait été terrible pour elle, bien sûr, d'abord. Et je l'aurais hyper mal vécu aussi. Ça aurait été contre la vérité. Pendant 7 ans, j'ai tremblé à l'idée que le procès ne lui soit pas favorable, que la vérité n'éclate pas. Quand les résultats de l'ADN ont été confirmés, ce fut comme un énorme poids qu'on m'enlevait. Si cela n'avait pas été le cas, je n'aurais pas pu vivre avec moi-même.
À pas du gain, volonté de déstabiliser la monarchie, voire folle, il s'est écrit beaucoup de choses peu aimables sur Delphine Boël. Mais sans doute a-t-elle été d'abord une jeune femme infiniment triste d'être rejetée par son père. Et de ce point de vue, le fait qu'il soit roi ne change sans doute rien à l'affaire.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, cette histoire de paternité non reconnue, puis reconnue, et qui a fait débat, on en parle avec notre invité, Pierre Kroll. Bonjour Pierre Kroll.
Bonjour.
Et surtout, merci d'avoir passé la frontière pour être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc belge, dessinateur de presse, auteur du dessin quotidien dans le grand journal belge Le Soir depuis plus de 20 ans. Vous avez aussi participé à de nombreuses émissions de débat à la RTF, en faisant les dessins, hein, en direct. Et puis alors, vous avez suivi de près cette affaire Delphine Boël, si on peut appeler affaire Delphine Boël, parce qu'elle n'y a pour rien, hein, finalement. Vous connaissez personnellement les protagonistes de cette histoire, ou plusieurs protagonistes ?
Oh ben oui, à peu près tous ceux que vous avez cités, je les connais peu ou prou. Pour commencer par le roi, hein, c'est quand même le plus important, je l'ai rencontré personnellement 3 fois. Et je tiens à dire, pas par déférence, rien ne m'y oblige, mais parce que vous l'avez évoqué dans le récit qui était parfait, que c'est une personnalité très sympathique. Donc ces 3 rencontres étaient sympathiques. Et je le dis parce que c'est pas fréquent. Dans ce genre de moment, il y a toujours, vous savez, tout un aéropage d'aide de camp et tout autour, un protocole très strict, un timing, ouais. Et tout. Et Albert était, lui, quelqu'un qui vous mettait très à l'aise.
Simple.
Et voilà. Très simple. Ouais. Vous savez qu'on ne peut pas poser de questions au roi, mais ils m'ont posé tant qu'il y a eu une vraie conversation. Et puis alors, il aimait beaucoup mes dessins. Je le savais de source sûre, parce que son chef de cabinet m'a dit à 2 reprises, « Monsieur Kroll, je dois vous faire une confidence. » Donc là, je vous la fais à vous aujourd'hui, mais le temps est passé. Il m'a dit, « C'est une confidence, ne le répétez pas, mais le roi se retrouve dans tout ce que vous lui faites dire. » Dans vos caricatures. Donc, je ne vais pas vous en détailler ici, mais il y a pas mal de moments où j'osais quand même prêter des propos au roi qui n'étaient pas ceux qui tenaient en public. Il faut dire que le roi ne peut pas s'exprimer. Hein. En Belgique, il faut savoir ça. Le roi parle à 2-3 moments dans l'année qui sont bien précis, la fête nationale, les vœux de Nouvel An, et doit dire un texte qui est relu, voire certains diront écrit, par le Premier ministre. Donc le roi n'a jamais une opinion, il ne dit jamais ce qu'il pense de quelque chose. Dans mes dessins, oui, je le faisais penser que ceci ou cela.
Et bah, finalement, ça l'arrangeait.
Voilà.
Mais, oui.
Mais quelque part, donc, j'ai eu ce rôle très particulier dans les monarchies, c'est celui de fou du roi, en quelque sorte. Parce que moi, je pouvais faire de l'ironie, me moquer un peu du roi, À la condition, bien sûr. Enfin, j'ai pas fait ça pour lui faire plaisir. Hein. Moi, il aurait pas aimé mes dessins, j'aurais pas eu peur. Hein. Tant pis, hein, c'est mon métier.
Indépendant,
oui. Oui. Mais c'était amusant de savoir que je tombais juste et que ça l'amusait. Donc, comme je vous dis, comme les fous du roi de l'Ancien Régime, parce que je me moquais beaucoup des courtisans, comme faisaient les fous du roi de Louis XIII, ou quoi, c'est-à-dire des ministres. Et donc, on entretenait comme ça une relation à distance par dessin interposé. Et il faut dire aussi que j'ai popularisé une image du roi qui est très connue en Belgique, surtout francophone, parce que je le suis. C'est le roi en robe de chambre, en pyjama et en pantoufles. Je le représentais toujours comme ça, jamais en costume cravate. Parce que, vous l'avez rappelé, quand il a été appelé sur le trône, c'était un peu par surprise à cause de la mort subite de son frère Baudouin. Il n'était pas appelé à régner, lui. C'était le numéro 2 pour le rester toute sa vie. Mmh. Donc je l'avais dessiné en monsieur déjà à la retraite, à qui on vient dire, ben pas de chance, il faut y aller, mon vieux. Voilà. Donc mon vieux, j'avais dessiné en vieux monsieur comme ça. Et ça s'est popularisé, et lui, ça l'amusait lui-même beaucoup.
Et alors vous me dites qu'on ne peut pas poser une question au roi.
C'est ce qu'on vous dit avant de vous le présenter, on ne questionne pas le roi. En tout cas, il ne donne jamais une seule interview, jamais.
D'accord. Donc comme vous n'êtes pas roi, je peux vous poser des questions.
Allez-y.
Bien que vous soyez belge.
Oui, bien sûr.
Nous avons eu en France.
Et alors Delphine, vous me demandez, oui. Bon, Delphine aussi, je l'ai rencontrée.
Bah oui, Delphine, le personnage principal.
Oui, bien sûr. Alors elle, comme tout le monde, j'en ai...
Mais perdu avec votre histoire de roi, c'était très intéressant, parce que les républicains que nous sommes, on est toujours curieux de découvrir ça.
Ah oui, je peux vous en raconter beaucoup, je peux vous apprendre la Belgique. Mais
ouais,
vous
enfin, on a qu'un quart d'heure.
Vous avez beaucoup de choses à apprendre aussi. Hein. Comment on fait des coalitions et comment on
Delphine.
Vote chez nous. Mais Delphine, alors comme tout le monde, j'ignorais son existence avant qu'elle soit révélée dans un livre. Mais là, je l'ai très très vite rencontrée parce que c'était une artiste, donc c'est une galeriste qui travaillait, qui me dit je vais te la présenter et tout. Et on s'est très vite très bien entendu. Elle m'a dit, elle, à propos de mes dessins qu'elle aimait aussi, excusez-moi si je suis très aimé, mais non, elle disait, chaque fois que vous vous moquez de mon sort, je le prends comme autant d'aspirines qui me font le supporter. Voilà, ce sont vraiment ces termes. Et donc, on a entretenu aussi comme ça une relation sympathique par caricature interposée. Je la vois beaucoup moins depuis qu'elle est princesse.
Alors, en Belgique, est-ce que cette affaire a été une affaire importante ?
Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'elle est très importante, parce que c'était quand même... c'était surtout un feuilleton interminable, dont on parlait dans les dîners de famille, etc. Tout le monde avait un peu son opinion là-dessus. C'était, si vous voulez, une série, quoi, avec saison 1, saison 2, saison 3. Personne ne savait quand ça s'arrêterait. Et quand je dis pas tellement importante, c'est que c'était quand même et avant tout une affaire de famille. Bien sûr, une famille qui est royale, mais... Quelque chose qui avait... Si vous me demandez une histoire importante concernant la monarchie récente en Belgique, ce serait plutôt le refus de signer la loi dépénalisant l'avortement par le roi Baudouin, le frère du roi Albert, en 1990. 90 pour nous, mais c'est la même année. Le roi des Belges, vous savez, doit signer les lois lorsqu'elles ont été votées par une majorité au Parlement. C'est tout, il n'a pas à les discuter.
C'est normal ce que vous dites, parce que là, c'est quelque chose de politique qui concerne l'ensemble des Belges, donc il y a un vrai enjeu. Hein.
C'est ça. C'est
alors que là, il n'y a pas un vrai enjeu, c'est la famille, quoi.
C'était pas pour changer de sujet, mais pour faire cette comparaison, parce que là, la monarchie était mal mise. Et il a fallu des trésors d'imagination juridique, il y en a beaucoup dans cette affaire-ci aussi, mais pour que les Belges, le gouvernement, retrouve une loi sur l'incapacité de régner momentanée d'un roi lorsqu'il est, par exemple, prisonnier de l'ennemi, vous imaginez. Donc on a considéré que Baudouin était prisonnier de sa conscience, et pendant 48 heures, on a dit on va faire sans lui. Voilà, c'est exceptionnel dans l'histoire. Ça, c'était vraiment dangereux pour la monarchie, mais pas l'affaire d'Albert.
Et Delphine, quel était, selon vous, le moteur, la raison profonde de son action en justice ? Est-ce que c'était quelque chose de profondément humain, de quelqu'un qui veut connaître ses origines, sa filiation, et c'est tout à fait légitime ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de politique ? De politique, non, mais un attrait pour la monarchie, entrer dans la monarchie ? Ou les deux, peut-être ?
Peut-être les deux. Sur le deuxième point, bon, il faut là... Je ne suis pas dans tous les neurones de son cerveau princier maintenant. Mais c'est en tout cas la première des raisons, ça c'est sûr, et vous l'avez bien expliqué dans le récit. Mais c'est facile de se mettre à sa place, quoi. Cette fille, elle aime bien cet homme qu'aime sa mère. Elle sait que sa mère aime cet homme. Elle le connaît, elle l'a vu plein de fois. Elle l'appelle papillon, comme vous dites, et tout. Et puis toutes les circonstances font qu'elle est obligée de mentir, de faire semblant que son père, c'est Jacques Boël, qui lui, en plus, s'en désintéresse complètement de cette pauvre fille. Elle a déjà 30 ans quand l'affaire devient publique. Il est assez logique qu'elle ait envie de dire, c'est ça la vérité de l'histoire. C'est pas celle qu'on m'a demandé de jouer tout le temps. Allait-elle continuer ça ? Comment ? Non, bien sûr, je crois qu'elle a entamé à ce moment-là un combat qu'elle ne pouvait faire que mener jusqu'au bout.
France Inter. Affaires sensibles.
Pierre Roll, quel est le ressenti des Belges face à votre monarchie? Et en fait, vous verrez qu'il y a un deuxième étage à cette question, mais déjà réponse à la première.
D'accord, mais c'est amusant parce qu'il y a de nombreux intellectuels et des politiques qui ont cette phrase amusante en Belgique qui est « je suis républicain, partout, sauf ici en Belgique ». C'est-à-dire que la monarchie belge, elle est née avec la Belgique et elle disparaîtra avec la Belgique. Elle ne tient pas à l'adoration qu'on peut avoir dans l'histoire, puisqu'on est un pays quand même relativement neuf, enfin, de la famille, vous avez dit, ce sont des Saxe-Cobourg, c'est des gens qu'on a été chercher. Le premier roi, c'est un CIO, hein, on va chercher quelqu'un sur son CV pour lui dire « maintenant, voilà, ton boulot, ça va être ça, si tu veux bien ». Et voilà. Et donc, il n'y a pas d'adoration particulière. Les Belges aiment leur famille royale comme ils aiment Tintin et Eddy Merckx, si vous voulez. Voilà, ça fait partie de la Belgique, c'est comme ça. Et, bon, et des gens qui ont une opinion républicaine, c'est pour ça que je dis intellectuelle et politique bien souvent, savent que si on devait passer un régime républicain en Belgique, on risque de faire s'écrouler tout le château de cartes. Il sera quoi, le président de la République? Il sera flamand, tout le temps alors, toujours, puisqu'ils sont majoritaires démocratiquement, ou alors il ne sera pas élu, il sera désigné comme un autre président. Enfin, des purs républicains dans l'âme, il y en a, mais ils vous diront toujours qu'il faut faire une exception. Dites que vous alliez y revenir, alors je crois que je vois pourquoi.
Oui, parce qu'il se dit que Marc Huitendaal, qui apparaît comme le principal avocat de Delphine et qui a repris le dossier en cours de route, l'a fait parce qu'il est un républicain affirmé et qu'il voyait dans cette affaire une façon d'affaiblir la monarchie. Ça vous semble possible ?
Alors non,
qu'elle soit affaibli, non. Au moins affaibli.
Non, je pense pas qu'il ait fait pour ça. Qu'il ait trouvé amusant d'avoir à plaider contre le roi et ses avocats parce qu'il a des opinions républicaines. Ça, j'en suis convaincu. Mais s'il avait voulu atteindre à la monarchie, il aurait paradoxalement mieux fait de perdre alors son procès, parce que si on avait continué à donner tort jusqu'au bout à Delphine Boël, là, l'image de la famille royale, de l'état de droit, si vous voulez, tout aurait paru infiniment plus cruel. Et finalement, lorsque Delphine Boël obtient ce qu'elle cherchait, grâce à son avocat Marc Huitendaal et d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a eu le droit de la famille, un droit constitutionnel, c'était une affaire, c'était les championnats du monde de droit belge. Hein, et donc à la fin, tout rentre dans l'ordre. Donc ça n'a pas abîmé l'image de la famille royale.
Cela dit, si on compare cette affaire belge à ce qui s'est passé dans une autre monarchie, une monarchie la plus connue du monde, la monarchie britannique, c'est autrement plus grave. La mort violente d'Diana par un accident, les tribulations de Harry et surtout le prince Andrew arrêté et qui a perdu tous ses titres de noblesse. Ça, c'est assez grave. Chez vous, c'est pas forcément très grave.
Non, bien sûr. D'ailleurs, je me rendais pas compte à quel point ma comparaison avec Eddy Merckx et Tintin était juste. C'est-à-dire que ce sont deux personnages que particulièrement... Ben, Tintin a beaucoup d'aventures, il n'en a pas, par exemple, sexuel, bon, sentimental, ben, c'est un personnage parfait. Eddy Merckx, c'est absolument parfait. Vous n'avez jamais entendu avoir une phrase de travers, etc. Et la famille royale se comporte comme ça en Belgique. Contrairement à la famille royale d'Angleterre, la famille belge arrive à rester parfaitement discrète. On ne sait jamais rien et il se passe sans doute pas grand-chose. Et on dit souvent, le roi, je vous disais tout à l'heure qu'il ne pouvait pas répondre à des questions, le roi apprend tout petit à ne rien dire en trois langues, comme on dit chez nous. Voilà.
C'est drôle. Vous parlez de Merckx, vous savez que les spécialistes du cyclisme disent que Merckx était le plus grand champion cycliste de tous les temps. Il reste vraiment la figure absolue du cyclisme, une figure belge. Est-ce que Paola a joué un rôle dans l'attitude de déni persistant d'Albert? Est-ce que leur réconciliation a été à ce prix, à votre avis?
Alors, leur réconciliation privée, j'en sais évidemment rien. Personne peut vraiment... Non, mais je veux dire celle qui est arrivée pendant... Il faut se rappeler quand même que pendant que le roi Albert fréquentait, c'est peu de le dire, la baronne de Sélis-Longchamp, la reine, de son côté, avait des amants, au moins un, dont on a beaucoup parlé en Belgique. Et tout. Si vous voulez faire une autre affaire sensible, elle avait moins de conséquences. Mais le roi et la reine ont vécu pendant 10 ans séparés, dans 2 ailes séparées du palais. Bon. Et donc,
on l'a dit un peu, que le couple était fragile.
La réconciliation à propos de laquelle, là, je suis convaincu qu'il y a eu un deal, si vous voulez, c'est lorsque Albert monte sur le trône. Là, je suis convaincu que Paola a dû lui dire quelque chose du genre « Alors maintenant je serai la reine modèle à tes côtés tout le temps », c'est ce qui compte hein, dans une monarchie.
Bien sûr.
Mais ta Delphine, on n'en parle plus. Et si elle ne l'a pas dit d'elle-même, elle a dit ce qu'on lui a dit de le dire. Mais là, il y a certainement eu un arrangement, donc un prix à payer.
Et selon les journalistes qui ont suivi le dossier, les avocats d'Albert, bon, et vous d'ailleurs, les avocats d'Albert ont fait preuve d'une grande inventivité en matière d'arguments pour tenter d'enrayer l'action de Delphine, et en particulier pour éviter à tout prix qu'Albert doive se soumettre à un test ADN. C'est une forme d'aveu déjà.
Oui, c'est clair que... D'ailleurs, l'opinion des Belges est allée dans ce sens-là au début. On vient beaucoup d'en parler. Ce qui est important dans une famille royale, ce sont les apparences aussi. Donc, quand débarque, si on peut dire, Delphine Boël dans le film, elle dérange, évidemment. Ah. Donc, pas mal de Belges lui en ont voulu simplement d'exister, si vous voulez. Avec tout ce que vous avez un peu évoqué, les gens disent « Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? C'est pour l'argent ?» ce qui est faux, parce que je crois que la famille Boël possède plus d'argent que la famille royale. Alors, mais de toute façon, elle n'était pas héritière, là, non plus. Mais, vous voyez, on est allé suspecter beaucoup d'intentions, etc., à cette fille. Et puis, ça s'est inversé. On n'a jamais fait de vrai sondage là-dessus. Mais après, les Belges ont considéré surtout que c'était le roi qui s'entêtait, quoi. Vraiment. Et c'est vrai qu'au niveau juridique, il a fallu trouver des... Vous avez évoqué le moment où elle ne peut pas avoir deux pères. Il y a aussi, en quelque sorte, un moment où elle n'en a plus du tout. Parce qu'il est avéré que l'autre, Boël, n'avait pas son père par un test ADN qu'on ne veut pas reconnaître au début, puis qu'on reconnaît ensuite, etc., comme véritable. Et entre-temps, Albert continue à dire qu'il n'est pas le père. Donc, elle n'en a plus, cette fille. Et le caricaturiste que vous avez devant vous, par exemple, s'était amusé de ça à un moment.
Ah ben, j'imagine.
Bah oui, j'avais dit. Et si c'était un troisième, finalement comme quand je vous dis que la reine Paola a eu sa vie de son côté aussi, hein, au moment où le roi fréquentait la baronne de Sélis-Longchamp. Là, je ne l'ai pas dessiné, mais ça m'aurait beaucoup amusé que ce soit la reine Paola qui tombe enceinte. Ah, alors là, qu'aurait-on fait?
C'est le professionnel qui parle, le professionnel du crayon qui se dit « plus il y a d'aspérité, plus j'aurai le crayon leste hein, », c'est ça en fait. Il me reste à vous remercier,
oh ben,
Pierre Kroll.
C'est moi qui vous remercie.
Faudra qu'on aille en Belgique faire une affaire sensible un jour, parce qu'on fait des affaires sensibles en public.
Ah mais
et je sais que vous êtes sensible à cette émission en Belgique, je le sais.
À commencer par moi.
J'ai les preuves, en voilà une.
Ben, je vous écoute en faisant du vélo à chaque fois que c'est possible.
Voilà. Merci,
au revoir. Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Delphine Boël, ou comment je suis devenue princesse de Belgique. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait David Dibouet-Black.